Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Ursule. Vous pourrez vous demander pourquoi je veux parler de Sainte-Ursule et des 11 000 vierges, comme on les appelle, qui auraient été martyrs il y a bien longtemps. C'est que Sainte-Ursule a été, pendant des siècles et des siècles, une des saintes les plus populaires dans l'Église. C'est à peine croyable parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Mais pourtant, on parle des Ursulines, ça c'est sûr, auquel elle a donné son nom par la fondatrice Saint-Angèle de Mérici, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais ça vaut la peine de savoir qu'est-ce que c'est que cette légende de Sainte-Ursule et des 11 000 vierges. Ça m'a toujours intrigué quand j'étais jeune, je me disais 11 000 vierges martyrisées. C'est incroyable. Il faut bien se souvenir aussi que la bienheureuse Marie de l'Incarnation, qui a vécu à Québec, était ursuline. C'est une communauté importante dans l'histoire du Québec. C'est une légende, la légende de Sainte-Ursule, une légende intéressante quand même. Il faut se faire une âme d'enfant, puis écouter cette histoire. Mais je ne vous la raconte pas tout, parce que c'est très compliqué. Mais je vais synthétiser. Parce qu'il y a peu de saints qui ont eu, durant le Moyen-Âge, une popularité aussi grande, vraiment, là, que celle des vierges, les 11 000 vierges, avec Sainte-Ursule, qui auraient été martyrisées à Cologne, en Allemagne. Partout, on a vénéré à travers l'Europe leurs reliques, ou leurs images, Et tout le monde racontait leur histoire extraordinaire. Puis maintenant, au contraire, on ne peut que arriver à la même conclusion que un grand historien qui termine son étude sur la légende de Sainte-Ursule en disant: la légende des 11 000 vierges est bien morte, et la preuve en est que seuls la connaissent ceux qui se plaisent au royaume des ombres, les poètes et les érudits, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux mythes, quoi. Mais ça vaut la peine de s'intéresser aux mythes pendant quelques instants, ça va nous distraire pendant 10 minutes. Ça correspond, cette histoire-là, parfaitement à la mentalité du Moyen-Âge. Et cette légende a obtenu, comme je vous ai dit, le grand succès, mais un si grand succès que ça a duré des siècles. Et tout à coup, quand la critique née de la Renaissance s'est attaquée à ce mythe, ça a succombé très très vite. Après de longues disputes, les érudits sont arrivés à s'entendre, et quelques vierges martyrisées à Cologne vers le 3e siècle, à peu près oubliés pendant 500 ans, ont été de nouveau honorés au 9e siècle. C'est de là que part la légende, au 9e siècle. Et le récit de leur martyre, ce qu'on appelle leur passion, composé à la fin du 10e siècle, a fait fureur. Puis là, on a fait des découvertes fabuleuses d'ossements au début du 12e siècle, en l'an 1106. Ça a créé un grand courant de dévotion qui a duré jusqu'au 15e siècle, donc pendant, disons, 5 siècles. Ou 4 siècles. Et ça n'allait que grandissant. C'est un phénomène étrange. Elles auraient été au 4e siècle, surtout au 3e siècle, c'est survenu, mais au 4e siècle, on vénérait des vierges martyrs, puis la basilique de Cologne pouvait être antérieure à la paix établie par l'empereur Constantin, hein, qui s'est converti sur ces derniers jours. On savait que des vierges avaient versé leur sang pour le Christ. C'était survenu avant la persécution de Dioclétien, puisqu'on dit que César Constance a empêché l'effusion de sang dans les territoires qu'il gouvernait, ce César Constance. Il n'y avait plus de martyrs à travers tout le grand empire romain. Alors, on va quitter le domaine de l'histoire. Je vais entrer directement dans la légende. C'est un long tunnel, mais je le raccourcis. Pendant plus de 400 ans, donc, on relève aucune trace des vierges martyrs, là, de l'an 300 jusqu'à, 700 ou 800. Puis, on peut dire que ce sont les invasions barbares qui ont été fatales à la mémoire de ces quelques martyrs. Brusquement, en l'an 948, Vandelbert de Prüm, dans un martyrologe qu'il avait écrit, lui, c'est curieux, hein, tout en vers. Il parle de milliers de saintes, puis il y a deux autres martyrologes, ou des calendriers, si vous voulez, des saints, là, qui sont arrivés un peu plus tard. L'un provenant probablement de Hereford, puis l'autre d'Essen, qui annonce clairement à Cologne 11 000 saintes vierges. Ça commence. Des chiffres énormes. Le nombre de 11 000, pourtant, ça ne s'impose pas immédiatement. Il y a certains auteurs qui l'ignorent encore au 10e et 11e siècle. On trouve ça un peu trop exagéré. Mais il semble bien, autant qu'on peut étudier ça avec les documents qui nous restent, mais qu'au début du 9e siècle, donc vers 800 quelque chose, on pensait que les vierges martyrs de Cologne étaient au nombre de 11. Et c'est de cette donnée que sont sortis deux courants. Les uns ont cherché le nom des 11 vierges. Je vous en parlerai brièvement tout à l'heure. Puis les autres ont cru qu'elles étaient 11 000. Mais d'où vient ce chiffre de 11 000? Pourquoi? Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées. Je vous en fais grâce. Mais la seule solution satisfaisante, c'est celle d'un savant qui dit que les Romains avaient l'habitude, qui avait été conservée au Moyen-Âge, de placer un trait au-dessus des chiffres. Soit pour indiquer qu'il s'agissait de chiffres, parce qu'ils utilisaient pour chiffres des lettres, des X, des I, des L, des M, etc., des C. Alors, pour bien montrer qu'il s'agissait de chiffres, on mettait une ligne au-dessus. Et aussi, on utilisait cette ligne au-dessus des chiffres, ou des lettres, si vous voulez, pour transformer les unités en milliers. On va donner des exemples. X, I, ça veut dire 11. Si on met une ligne par-dessus, ça veut dire 11 ou bien 11 000. Alors, il a dû y avoir un bon moine ou une bonne moniale qui s'est trompé un peu. Ça ne l'a pas troublé. Il était tout seul dans sa cellule ou dans son endroit où il rédigeait à la main, toutes ces choses-là. Il n'y avait pas d'imprimerie dans ce temps-là. Hein. Et puis, il s'est réjoui de voir qu'il y avait eu 11 000 vierges qui avaient été martyrisées dans l'Église. Puis, une horreur aussi colossale ne peut étonner, évidemment, que ceux qui connaissent peu les légendes fabriquées au 9e siècle, il y en a eu. Pour ce qui est des noms, bien, en 946 puis 962, je donne les détails précis parce qu'on les trouve dans des litanies de Cologne, des litanies des saints. Puis on compte pour la première fois 11 noms de ces vierges de Cologne martyrisées. Je donne les noms. Il y en a un, en tous les cas, ou deux qu'on peut retrouver aujourd'hui. Marthe. Ensuite, Sola. Vous savez, les gens cherchent des noms originaux maintenant. Ça serait peut-être une occasion d'en mémoriser quelques-uns. Sola, S-A-U-L-A. Britola. Grégoria. Saturnina, Sabatia, Pinoza, Ursule, Santia, Palladia, et puis Saturia. On peut pas dire que ce sont de bien beaux noms. Enfin, dans un sacramentaire là, de la fin du 10e siècle, on retrouve l'énumération des 11 vierges avec une variante peu importante. Il y a un nom qui surgit et qui remplace un autre, un nouveau nom, Rabatia. Et puis, un bouleversement dans l'énumération. Et là, Ursule est enfin la première. Alors, en 1893, il y a 100 ans environ, on découvrit dans l'église Sainte-Ursule de Cologne, près du troisième pilier de la nef latérale de droite, une inscription antique qui était grossièrement exécutée, qui était difficile à lire, puis était assez endommagée. C'était écrit, je vous fais grâce du texte latin, je donne la traduction française. « Dans ce tombeau gît l'innocente Vierge Ursule. Elle vécut 8 ans, 2 mois, 4 jours. » Elle était évidemment vierge à cet âge-là. Une petite fille, donc, nommée Ursule, a été enterrée dans l'église Sainte-Ursule, ou bien à côté. C'est une coïncidence, peut-être. Mais on peut remarquer pourtant que l'épitaphe est beaucoup plus ancienne que les premières mentions de Sainte-Ursule, qui ont commencé au 10e siècle, et qu'elle a toujours été dans l'église des Saintes Vierges, martyrs, et dans son voisinage immédiat. En 947, un incendie a détruit l'abbaye des Moniales d'Essen. Lors de la reconstruction qui a suivi aussitôt, De nouvelles reliques ont été apportées, puis quand à la fin de ce même siècle, les moniales des Saintes Vierges de Cologne ont fait rédiger le récit de la mort glorieuse de leur patronne pour mettre à la tête des 11 000 Vierges Ursules, celles dont elles montraient l'épitaphe, là, que je viens de vous, dont je viens de vous parler, aux pèlerins à la vénération, sans pouvoir la déchiffrer, ça a fait la gloire d'Ursule. Et le succès de la légende a décidé de la primauté d'Ursule. Alors on parlait de plus en plus des vierges martyrs de Cologne, mais on hésitait beaucoup sur leur histoire. Et plus tard, le fameux Geoffroy de Monmouth, je voudrais vous en parler peut-être un jour, raconte à sa façon, lui qui est mort au milieu du 12e siècle, dans une histoire des rois de Bretagne, le massacre de Sainte-Ursule et de ses compagnes, qu'il place aux bouches du Rhin. Mais cet auteur est fantaisiste, on peut pas écouter ce qu'il écrit, c'est pas la peine. Pour ce qui est de la passion même d'Ursule, de sa mort, on a inventé toutes sortes de choses. Il y avait en Grande-Bretagne un roi très pieux qui désirait avoir un fils pour lui succéder, mais Dieu lui a donné une fille. Puis qui lui a préparé des biens éternels, dit-on. Ils ont été avertis par un songe de la lutte, qu'à l'exemple de David, cette fille allait mener contre un ours, le diable. Et ses parents lui ont donné le nom de Ours ou Ursule, petit ours. C'est ça que ça veut dire, Ursule. Alors, en grandissant, elle est devenue très pieuse et très belle. C'est l'histoire qui raconte tout ça, ces contes-là. Elle ne désirait rien d'autre que de se garder vierge pour son époux céleste. Et le fils d'un roi barbare, qui habitait bien loin, y a entendu parler de Ursule. Il est tombé en amour, comme on dit. Puis il a envoyé des ambassadeurs offrir des villes, des terres et même tout son royaume en échange de la main de la belle jeune Ursule. Et en cas de refus, il menaçait d'une guerre d'extermination. C'est pas d'aujourd'hui, hein, les guerres d'extermination. Et le roi fut très troublé. Il voulait pas perdre sa fille. Il voulait pas livrer sa fille à un barbare, ni voir son peuple ruiné puis massacré, exterminé. Alors, Ursule a vu que son père était bien perplexe. Elle lui a demandé pourquoi il était si inquiet. Ils se sont mis en prière, tous les deux. Et la nuit suivante, Ursule a vu en songe tout ce qui lui arriverait. Le lendemain matin, elle est allée trouver son père toute joyeuse pour lui annoncer qu'elle acceptait le projet de mariage. Elle demandait 10 compagnes d'élite. Et pour chacune, ainsi que pour elle-même, une escorte de 1000 vierges. Alors, il y a un délai de 3 ans, 11 navires les transporteraient et arriveraient ce qui plairait à Dieu. Elle était soumise. Le fils du roi barbare, enchanté de la réponse d'Ursule, s'est renseigné et a appris la nouvelle et s'est fait instruire de la religion chrétienne pendant que le roi de Grande-Bretagne lui faisait rassembler des jeunes filles et que ses sujets s'affairaient à la construction des navires. Puis au bout de 3 ans, les 11 000 vierges qui pouvaient rivaliser d'adresse avec tous les marins ont pris la mer sur la direction d'Ursule. Là, le vent les a poussées dans les Pays-Bas, là, la Hollande, dans la région de la Hollande, sur le principal bras du Rhin. Elles sont descendues à terre, elles ont acheté des ustensiles, car il y avait un marché, dit-on dans le vieux texte. Puis, à force de rames, elles ont remonté le fleuve jusqu'à Cologne. Alors, je reviens donc à cette histoire étrange, ce conte de Sainte-Ursule. Sainte-Ursule voit en songe un ange qui lui annonce qu'elle va aller à Rome avec toutes ses compagnes, 11 000. Et en reviendrait pour subir le martyre. Le lendemain, elle raconte sa vision à ses compagnes. Alors elle se rembarque, très joyeuse. Le vent les pousse jusqu'à Bâle, en Suisse aujourd'hui. C'est là que vivait Balthazar, Hans Urs von Balthasar, le grand théologien. Et de Bâle, bien, elles ont continué leur route à pied. Elles ont passé quelques jours à Rome. Elles ont visité des sanctuaires, les tombeaux des saints. Elles reviennent à Bâle. Elles reprennent leur bateau pour redescendre le Rhin jusqu'à Cologne. Elles comptent sur l'excellent accueil des habitants, mais il y avait les fameux barbares, qui assiégeaient la ville. Attila a admiré la beauté d'Ursule. Il lui offre de l'épouser. Elle refuse. Alors là, les barbares les criblent de flèches. Puis toutes ses compagnes aussi, elles meurent tous sous les flèches des Huns. Le massacre était à peine terminé quand les Huns on crut voir s'avancer contre eux une armée aussi nombreuse que leurs victimes innocentes. Ils ont été pris d'une terreur folle, alors se sont enfuis en désordre, à la grande surprise de ceux qui étaient assiégés à Cologne et qui, en sortant de leur cachette, là, dans la ville, ont vu les corps des vierges qui jonchaient le sol. Ils ont reconnu celles qu'ils avaient reçues quelque temps auparavant, avant qu'elles partent pour Rome. Ils les ont ensevelies avec honneur, puis ils ont construit la basilique. Alors, inutile d'ajouter que cette légende ne contient pas une parcelle de vérité. C'est une histoire. Un beau conte. Mieux certains érudits qui ont autrefois cru pouvoir attribuer aux Huns le massacre des Vierges de Cologne parce qu'ils se servaient de flèches. C'est pas un argument bien fort. Donc, la légende des 11 000 Vierges n'a pas tardé à figurer dans les recueils des vies des saints. On les retrouve encore aujourd'hui. Ce qui n'aurait pas suffi à leur assurer une bien grande célébrité si des inventions de reliques n'avaient pas suivi. On aurait pendu des reliques. En creusant les fossés au début du 12e siècle, on avait trouvé justement, comme j'ai dit, juste aux environs de cette église, une très grande quantité d'ossements. Ce qui n'aurait pas dû étonner, puisque c'était une basilique avec un cimetière à côté. Comme on a des cimetières à côté des églises dans nos campagnes. Bon, on n'y a pas pensé. On a crié au miracle. On aime beaucoup les miracles. Et souvent, même encore aujourd'hui, on crie au miracle trop facilement. Et ces ossements ne pouvaient être que ceux des compagnes, disait-on, de Sainte-Ursule. Mais la nouvelle de cette découverte s'est répandue dans toute la chrétienté. Et quelques années plus tard, on a commencé à faire des translations des ossements. Mais cependant, c'était pas toujours satisfaisant, ces résultats-là, parce qu'il était assez ennuyeux d'expédier des reliques de saintes sans pouvoir préciser leur nom, puis il fallait garder aussi de côté beaucoup de squelettes qui ne pouvaient pas être attribués à des jeunes filles. C'était évident que c'était des bons gros mâles, et il n'y était pas question. De toute façon, on peut conclure en disant que Jacques de Voragine, qui a écrit il y a des siècles des vies de saints, intitulé « La légende dorée », on peut acheter ça en livre de poche aujourd'hui, a recueilli les révélations, lui, de tout ça, les a combinées avec la passion que je viens de vous raconter un peu, là, pour donner à la légende sa forme, disons, la plus parfaite. Et malgré tous ses efforts pour accorder, la chronologie, il nous raconte un roman le plus invraisemblable d'aventure qui se puisse imaginer. Il nous raconte que la fille du roi de Constantinople et celle du roi de Sicile viennent rejoindre à Rome Ursule et son escorte, où les rois et les reines ne pouvaient déjà plus se compter. Puis, enfin, jamais une légende de saint n'a autant ressemblé dans l'histoire de l'Église à un conte de fées que la légende de Sainte-Ursule. Et aussitôt après la grande découverte des ossements, là, en 1106, l'Église des Saintes Vierges à Cologne a été reconstruite. Elle existe encore aujourd'hui, à l'exception du chœur remplacé à la fin du 13e siècle. La nef a été améliorée au 14e siècle, en tout cas le tombeau gothique en pierre de Sainte-Ursule a été rhabillé de marbre de style baroque en 1659. C'est là qu'on peut vénérer le tombeau de Sainte-Ursule, dit-on. Et Sainte-Ursule a pris de plus en plus donc le pas sur ses compagnes. L'église des Saintes Vierges a été appelée l'église Sainte-Ursule. Ce nouveau vocable s'impose à partir du 17e siècle. Il y a des chanoinesses des Saintes Vierges, des religieuses, quoi, qui ont été concurrencées à Cologne, même par leurs voisines de l'église dite des Maccabées, qui ont prétendu se trouver, elles aussi, dans les limites sanctifiées par les corps des martyrs. Puis, il y a les religieux des grands ordres, les bénédictins, les cisterciens, les prémontrés, qui avaient cherché dès le 12e siècle à enrichir le trésor de leur abbaye avec des reliques des 11 000 vierges. Les ordres nouveaux les ont même imités durant les siècles suivants. Et les translations ont eu surtout pour destination les pays du Rhin, le long du fleuve, le Rhin, les Pays-Bas, puis la France, le nord de la France aussi, où on trouve des reliques des 11 000 vierges beaucoup plus loin. On peut évidemment pas mentionner tous les lieux qui ont reçu des reliques, ça n'a pas de sens. Mais on est surpris, écrivait un prêtre au XVIIIe siècle, comment un collège tel que la Sorbonne a pu se déterminer à choisir Sainte-Ursule et ses compagnes pour les patronnes de son église. Saviez-vous ça, que c'était les patronnes de l'église de la Sorbonne? C'est absolument extraordinaire quand on y pense. Hein? Et on voit aucun rapport de ces saintes avec un ensemble de grands théologiens de la Sorbonne à l'époque. C'est assez étrange. C'est lors de la dédicace du 21 octobre 1347 que Sainte-Ursule et ses compagnes ont été instituées patronnes de la chapelle de la Sorbonne en 1347, après la Vierge Marie, heureusement, parce que l'on possédait quelques-unes de leurs reliques. Au siècle suivant, presque 100 ans plus tard, on célébrait la dédicace le 21 octobre, et puis on déclare n'avoir pu savoir depuis quel temps on a commencé à substituer toutes ces histoires qu'on racontait sur Sainte-Ursule au sermon traditionnel qu'il y avait avant, un sermon profond, un sermon sérieux, un sermon moral. Et on s'est mis simplement à parler de Sainte-Ursule, Sainte-Ursule à la Sorbonne dans la chapelle le 21 octobre chaque année. Souvent, Sainte-Ursule, on la représente, là, elle abrite ses compagnes sous son grand manteau à la façon de la Vierge de Miséricorde. Hein. Et les deux plus célèbres représentations de Sainte-Ursule, je les mentionne parce que c'est très important, c'est celle de Memling, ce très, très, très grand peintre. Il a fait ça en 1489. Puis l'autre très grand peintre, Carpaccio, l'année suivante, en 1490. Mais alors que Memling choisit pour décorer la châsse de l'hôpital Saint-Jean de Bruges, en Belgique, les six épisodes les mieux connus, il les reproduit simplement. Carpaccio, lui, au contraire, se permet quelques adaptations dans 11 scènes qu'il représente et qui sont très belles. Ces deux grands peintres, comme d'autres moins célèbres, ont assuré, c'est eux qui ont assuré l'immortalité de la légende des 11 000 vierges de Cologne, au moment même où on peut dire toute cette histoire allait sombrer dans l'oubli. Tout à l'heure, je vais vous parler de Saint-Angèle de Mérici, qui a fondé les Ursulines en 1640, et qui était encore sous le plus de domination de cette immense légende. C'est une Italienne qui est née un 21 mars 1475, sur la côte du lac de Garde, comme tant de saints. Oui, c'est dans le territoire de la République de Venise. Et vous allez voir que Saint-Angèle de Mérici, je vais raconter brièvement sa vie, pour passer ensuite à l'arrivée des Ursulines à Trois-Rivières, qui célèbrent cette année leur 300e anniversaire. Mais soyons sérieux, je vous parle de la fondatrice des Ursulines, Saint-Angèle de Mérici. Je vous ai dit qu'elle est née le 21 mars 1475. Elle est née à Desenzano, sur la côte sud du lac de Garde, dans le diocèse de Vérone, là, c'est sur le territoire de la République de Venise. Son père s'appelait Giovanni Merici. Et Angela, ou Angèle, elle tient de ce qu'on peut appeler la race solide des paysans lombards, la Lombardie dans le nord, là, dans la région de Milan. Par sa mère, qui est une Biancosi, de la petite noblesse citadine, d'une petite ville qui s'appelle Salo. C'est pas drôle comme nom de ville, hein? S-A-L-O. Et ses parents lui ont donné une bonne éducation chrétienne, mais ils n'ont pas pu voir à sa formation intellectuelle. Mais quand même, elle pouvait se débrouiller. Elle les a perdus tous les deux alors qu'elle n'avait que 15 ans. Orpheline à 15 ans. Et c'est son oncle maternel qui était sympathique qui a pris charge de notre Angèle et de sa sœur. Il habitait, lui, justement, la ville de Salo. C'est un homme pieux qui a permis à ses deux filles, ses deux nièces, de continuer chez lui toutes les pratiques de dévotion auxquelles elles s'adonnaient déjà. Et bientôt, Angèle de Mérici perd sa sœur, qui était son unique consolation. Elle se trouve vraiment orpheline. Elle est inquiète sur le sort de son âme, car elle n'a pas pu recevoir les sacrements encore. Mais elle est réconfortée à un moment donné par une révélation qui lui apprend que sa sœur est bien rendue au ciel, qu'elle jouit de la vision béatifique, qu'elle voit Dieu, quoi. Et à la suite de ce deuil, pour se sanctifier, en étant plus sûr de se sanctifier, Angèle entre dans le tiers-ordre de Saint-François. Et elle perd son oncle. Elle est malchanceuse, ses parents, sa sœur, son oncle. Alors elle retourne à des Desenzano chez ses frères. Elle avait 20 ans. Et là, elle est frappée des désordres de la société, les désordres du monde. Elle ressent un appel intérieur. Elle commence à s'inquiéter de la sanctification des autres, des gens, puisque elle a la joie de vivre avec Dieu. Elle voudrait que les autres puissent aussi connaître Dieu, vivre avec lui. Et elle décide de s'adonner aussi à toutes sortes de bonnes œuvres, s'occuper des pauvres. Et vers l'âge de 40 ans, finalement, en 1516, elle déménage à Brescia. Puis là, elle accomplit plusieurs pèlerinages en Italie, tout d'abord, à Mantoue. Puis elle va aussi au tombeau d'une vierge, Andreasi, qui était très réputée à l'époque. Elle va là en 1522. Donc, 6 ans après s'être établie à Brescia. À plusieurs reprises, elle monte sur la montagne, le mont Varallo, où l'on avait reconstitué les lieux saints de Jérusalem, et elle médite sur la vie de Jésus et sa passion. En redescendant, elle s'arrête à Milan. Quelle belle ville! Mais les vrais lieux saints l'attirent. Elle a pris goût à ça en haut de la montagne de Varallo. En mai 1524, elle se joint, comme Saint Ignace l'a fait la même année, en Saint Ignace de Loyola, dont je vais vous parler bientôt, elle se joint à un groupe de pèlerins qui s'embarquent à Venise pour visiter la Palestine. Puis, il lui arrive quelque chose de très étrange, elle devient aveugle. Ça s'arrive à Candie, en Crète. Et c'est quand elle revient à Candie, au moment du retour, qu'elle retrouve la vue. C'est comme si Dieu, qui, pour la détacher de tout ce qui n'est pas lui, l'avait frappée dans ce qu'elle avait de plus cher, la vue, puisqu'elle s'en allait en pèlerinage, il a voulu lui apprendre le renoncement à ce qui semble devoir favoriser sa dévotion. Il veut, Dieu, au fond, que nous n'ayons pas de dévotion sensible, sentimentale. Il n'est pas contre. Mais pour la purification de l'âme, il nous fait passer par une nuit obscure, par une espèce d'aveuglement. Et Rome la voit donc en 1525, à l'âge de 50 ans. Elle arrive là, elle est présentée au pape Clément VII, qui veut la retenir près de lui parce qu'il sait qu'elle s'occupe très intelligemment de toutes sortes d'œuvres auprès des pauvres, puis il veut qu'elle continue ça dans sa ville de Rome. Mais elle s'objecte au pape. Alors, il la renvoie. Elle revient donc à Brescia, où son activité est interrompue en grande partie par des guerres qui désolent l'Italie à ce moment-là. Puis au moment où Charles Quint marche contre Bologne, Angèle, pour éviter les excès des soldats qui se conduisent très mal, elle doit se réfugier à Crémone, où elle tombe gravement malade, puis elle est guérie miraculeusement lors d'un pèlerinage au fameux mont Varallo, là où elle était allée voir des reconstitutions des lieux saints. Puis elle revient à Brescia après la paix en 1529, cette paix qu'elle avait prédite à tout le monde et puis qui a mis fin à tous ces malheurs de l'Italie. Et c'est ici que se place en 1535. Elle a 60 ans. En 1535 arrive finalement la fondation des Ursulines. Mais elle meurt 5 ans plus tard, même pas 5 ans plus tard, le 24 janvier 1540, dans sa 66e année. Puis elle est enterrée dans l'église de Sainte Afra, si vous allez dans cette région, à Brescia. Pour ce qui est de sa fondation des Ursulines, on peut dire que dès sa plus jeune enfance, Dieu l'a attirée. Elle aimait à s'enfermer dans sa chambre avec sa sœur, puis dresser des autels comme font bien des enfants autrefois, du moins. Et puis, devant ces autels, là, bien, elle récite des psaumes à deux cœurs, l'une face à l'autre, comme les moniales. Elle dort sur un lit de planche. J'ai bien des jeunes qui ont imité ça. Hein. Quand on lit des 8 saints, quand on est jeune, on veut faire toutes sortes de choses comme ça. Et après s'être reposée quelques heures, bien, elle se levait pour prier la nuit. Et un jour, elle s'est enfuie de chez son oncle pour rechercher un ermitage. Mais son oncle l'a ramenée chez lui, évidemment. Elle était douée d'une beauté peu commune. Elle était très belle, une belle Italienne du Nord. Elle dédaignait tout ce qui pouvait aider à la rendre belle, d'ailleurs. Il lui arrivait de prendre plusieurs fois la discipline. Dans la même journée, elle se frappait le dos avec un fouet. Elle s'adonnait à des jeûnes longs et rigoureux. C'est dans la coutume de l'époque, ça. Croire que vraiment les rigueurs à ce point sont nécessaires. Peut-être vrai, qui sait. Éprise, comme elle l'était, là, de Jésus, c'était pour elle un rude calvaire que d'attendre sa 13e année pour s'unir à Jésus, justement, dans la Sainte Communion. Alors, les débuts de son activité, de toutes sortes, ont été bien humbles. Mais elle savait déjà que pour faire le plus, il faut d'abord accepter de faire le moins. C'est ce qu'elle dit dans son testament spirituel. Pour faire le plus, il faut d'abord accepter de faire le moins. Ce moins, ce fut de répondre à l'appel d'une famille de bourgeois notables, de Brescia, qui l'ont prié de venir vivre avec eux pour les consoler de la perte de leurs deux fils qui avaient tué à la guerre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le moins, mais c'était de pénétrer sous le toit des pauvres, comme dans l'atelier de l'ouvrier. Pourquoi? Pour y opérer des conversions. Comment? Par sa charité humble et prévenante. Et c'était de mettre fin à des inimitiés mortelles et invétérées, des rancœurs. Pour bien comprendre la fondation d'Angèle Mérici, il faut se placer dans le cadre historique. En 1535, c'est en pleine Renaissance. Puis, c'est à l'époque de Savonarole à Florence, dont je vous ai déjà parlé, et Bernardin de Sienne aussi, dont je vous ai parlé. Saint Bernardin de Sienne. Il y a ces hommes-là qui combattent l'humanisme un peu païen de la Renaissance. Elle emprunte, si on peut dire, l'estime de l'esprit humain, puis la compréhension condescendante des défaillances humaines. Le raisonnement d'Angèle est très sympathique et très moderne. En fondant son institut, c'est facile de tout reconstituer ça. D'ailleurs, la grande plaie de la Renaissance, c'est le débordement des mœurs, puis la paganisation de la société comme on l'a actuellement chez nous. Or, on ne peut réformer les mœurs comment que par la famille. Ça a l'air vieux jeu, hein? Mais je tiens à le dire et à le répéter. Avec tous ceux que j'ai pu lire et qui sont des gens très intelligents, hommes et femmes, on ne peut réformer les mœurs de notre société que par la famille. Et l'on ne peut réformer la famille que par l'éducation de la femme. Oh, j'entends des féministes protester. Mais que voulez-vous? L'influence qu'Angèle s'était acquise par son activité charitable, mais ça lui a attiré de nombreuses femmes et jeunes filles qui lui demandent de vivre en communauté avec elle. Elle les engage à demeurer dans le monde quand même, tout en consacrant à Dieu leur virginité afin de pouvoir travailler plus efficacement à la rénovation de la société. Alors, il y a des précautions évidemment sérieuses qui sont prises. D'abord l'obéissance, puis de fréquentes prises de contact pour qu'elles puissent prier ensemble. Puis ensuite, aussi des prises de contact pour se concerter sur les méthodes d'apostolat à utiliser. Puis aussi pour se corriger les unes les autres. Et c'est le 25 novembre 1535 que les premières compagnes, au nombre de 28, ont scellé leur alliance en s'engageant. Et le 8 août, l'année suivante, 1536, la règle est élaborée par la fondatrice. Elle est approuvée par un cardinal, puis la grande innovation de Sainte Angèle, renouvelée ensuite par d'autres fondatrices. Puis que déjà les théatins, qui sont très populaires en Italie, ont réalisé, fondé par Saint Gaétan, je vous en ai déjà parlé, les théatins réalisaient déjà ces réformes-là pour les hommes. Ça consistait à créer un régime monastique, si on veut, mais en dehors du cloître, en dehors de la clôture, avec un minimum de vie commune, en demeurant et en étant au service du prochain, en contact continuel avec les pauvres et les gens de la ville. Alors, si dans la suite, la constitution de la Congrégation des Ursulines fondée par Sainte Angèle a subi des modifications notables, c'est obligatoire malheureusement, l'esprit d'actualité qu'a voulu lui imprégner Sainte Angèle, sa fondatrice, est toujours resté son apanage. Ça ressemble beaucoup à l'idée de Sainte Marguerite Bourgeois quand elle a fondé la Congrégation Notre-Dame. L'Union romaine des Ursulines a refusé les avantages spirituels de la clôture papale et épiscopale pour réduire la clôture à leur seul cœur, finalement, là où elle prie le cœur, afin de pouvoir plus efficacement travailler au bien des âmes. Alors, deux activités principales se partagent l'apostolat des 200 communautés fédérées par Léon XIII en 1903 en une union romaine dont la supérieure générale réside à Rome. C'est l'enseignement, puis les missions. Dans l'une et l'autre de ces activités, les Ursulines ont suivi les directives que leur avait données jadis Saint Angèle. S'adapter, oui, s'adapter, même s'il faut pour cela modifier la règle. Vous voyez qu'elle était moderne. Les Ursulines ont surtout cherché à observer les consignes spirituelles de leur fondatrice. Qu'est-ce que c'est? Elle le dit d'ailleurs, « Je vous supplie de vouloir bien vous efforcer d'attirer vos filles, vos élèves si vous voulez, avec amour, et de les conduire avec une main douce et suave, et non impérieusement et avec âpreté. » Elle croyait en une éducation intelligente, quoi. Elle ajoute, « C'est libérer les âmes que de relever le courage des faibles et des timides, de les corriger avec amour, de prêcher l'exemple à toutes, et de leur annoncer la grande joie qui leur est préparée là-haut, au ciel. » Saint Angèle de Mérici a voulu mettre son œuvre sous le patronage de Sainte Ursule, cette Vierge de Cologne dont je vous ai raconté la légende, qui était très vénérée encore au temps de notre sainte, Angèle de Mérici. Elle était vénérée comme martyre de la virginité et aussi comme championne de la culture contre la barbarie. Où est notre culture qui lutte contre la barbarie? Je me le demande des fois. Je me le demande. Quand on voit les pièces de théâtre qu'on monte à Montréal, quand on voit les séries télévisées, quand on voit toutes sortes de choses. Mais hier soir, j'ai vu une très belle émission sur le Big Bang, sur la création de l'univers. On revenait souvent au mot « création » pendant une heure. C'était très beau. Et le plus grand astronome américain qui est paralysé cérébral a été décoré par Paul VI. Et par Jean-Paul II, pour ses découvertes qui confirment la théorie du chanoine Georges Lemaître, à savoir que tout ça a commencé par un Big Bang et donc par une création, notre univers immense. Il y a une apparition de Sainte Ursule qui n'est nullement nécessaire, on peut dire, pour expliquer le choix de ce patronage. Non, c'est pas nécessaire. La popularité dont elle jouissait m'a fait que Saint Angèle a choisi Sainte Ursule, et c'est tout à fait compréhensible. Les Ursulines sont arrivées à Québec tout d'abord, et elles se sont établies à Trois-Rivières en 1697, il y a donc exactement 300 ans cette année. Entre 1697 et 1700, elles ont établi une école et le fameux hôpital des Ursulines, sur la colline du Platon. Il y avait trois jeunes Canadiennes qui sont entrées au monastère pour devenir religieuses. Déjà. Et en 1700, un monastère de 50 pieds sur 30 s'est installé à l'endroit actuel. En 1716, donc, on dirait une vingtaine d'années après la fondation, on allonge la maison, puis on bâtit une chapelle dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Et en 1731, les Ursulines doivent se suffire, mais ne plus compter sur le couvent de Québec. Elles sont une douzaine de religieuses à Trois-Rivières, puis à l'élection de la première supérieure trifluvienne, vraiment, Mère Marie du Sacré-Cœur, Trottier, une demoiselle Trottier. En 1760, le Canada devient colonie anglaise, c'est la conquête. La plus grande partie des troupes anglaises est malheureusement campée dans la commune de Trois-Rivières. Et les gens doivent les nourrir, doivent leur fournir de la paille pour leur lit. Et les communautés d'hommes, les jésuites, les recollets, qu'est-ce qui leur arrive? Ils n'ont plus le droit de se recruter. Nos ancêtres n'avaient plus le droit de se faire jésuites et récollets. Les Anglais étaient là, protestants. À l'école, on manque de livres français. Il est défendu d'en imprimer. En 1765, recensement de Trois-Rivières. C'est pas très grand, mais ça demeure raisonnable. 118 maisons, 126 familles, quand on sait le nombre d'enfants dans chaque famille. Et les Ursulines sont au nombre de 20. En 1768, l'Église proclame que Angèle de Mérici, dont je viens de vous raconter la vie, est bien heureuse. Angèle a fondé la Compagnie de Sainte-Ursule, je vous le rappelle, en 1535, plus de 200 ans plus tôt. En 1775-1776, vous le savez, c'est la Révolution américaine, qui veulent se débarrasser des Anglais qui les exploitent. Ça commence à Boston. Les Ursulines soignent les soldats américains dans leur hôpital. C'est une dette qui n'a jamais, jamais été payée aux Ursulines par les Américains. Non, jamais. Et on souffre évidemment de la pauvreté. En 1797, 100 ans après la fondation, on fête évidemment 20 religieuses. Une fête bien modeste. En 1806, il y a un incendie abominable, dévastateur. On ne sauve pas grand-chose. Mais on vient les aider. 1808, deux ans plus tard, on rouvre le pensionnat. 18 élèves. Mais à l'externat, il y en a 60. Ça fait donc 78 élèves. En 1836, enfin, on bâtit un pensionnat. Il s'agit d'une maison de pierre. Puis en 1854, je vous donne des statistiques, 1854, 38 religieuses plus 4 novices, 66 élèves pensionnaires et 150 à l'externat. Ça fait plus de 200 élèves, ça, déjà. C'est énorme, hein? 1854. En 1886, les Ursulines ferment leur hôpital après 189 ans de soins hospitaliers. Et alors, l'hôpital Saint-Joseph, rue Sainte-Julie, ouvre ses portes, puis les Sœurs de la Providence continuent là les services commencés en 1697 par les Ursulines. Au bout de 200 ans, en 1897, il y a 80 religieuses, 232 élèves pensionnaires et 83 externes. Ça fait plus de 300 élèves. Il y a des grandes célébrations. En 1908, il y a l'ouverture de l'école normale. En 1935, le pensionnat des Ursulines devient le collège Marie de l'Incarnation. Il y a les belles lettres, la rhétorique, la philosophie. Puis en 1939, l'école de musique qui prépare aussi des bachelières. En 1947, 250 ans de présence à Trois-Rivières de la part de ces grandes éducatrices, qui sont des femmes de chez nous. Ce sont des Québécoises qui éduquaient nos Québécoises, de grandes femmes. On a le droit de célébrer même si ce sont des sœurs. Hein? Je suis fatigué du mépris qu'on porte à l'égard des religieuses. C'est tout le contraire. Alors en 1947, il y a une grande procession, des Ursulines cloîtrées, qui se rendent à la cathédrale pour la messe solennelle le 10 octobre 1947. Mes statistiques, 283 religieuses, 480 élèves et 173 normaliennes. Il y a 3100 élèves à Grand-Mère, Shawinigan, les écoles un peu partout. En 61, c'est la fondation d'une mission en Amazonie, au Pérou. Il y a maintenant des Ursulines périviennes. En 1970, là, il y a plus de 25 ans, on commence à voir les Ursulines œuvrer dans d'autres secteurs apostoliques que les écoles. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, en 1984, les Ursulines reçoivent de Rome les constitutions renouvelées, mais se transforment. Puis là, pour le 350e anniversaire de l'arrivée de Marie de l'Incarnation à Québec, il y a des fêtes en 1989. Puis en 1993, il y a 4 ans, c'est la direction générale de la première école des Ursulines à Trois-Rivières qui est confiée à un laïc, M. Pierre Papillon. Puis l'an dernier, bien, il y a eu la location du collège La Flèche et du collège Marie de l'Incarnation qui s'était signé en juin avec la corporation de ces établissements. Et là, c'est le site tricentenaire de présence cette année. Il y a des célébrations, évidemment, à Trois-Rivières. Je voulais donc rendre hommage brièvement par ce résumé de l'histoire des Ursulines de Trois-Rivières à ces femmes exceptionnelles, qui ont tant travaillé et dont on se souvient si peu, pour construire notre pays. Je voudrais terminer avec une belle prière de Marie de l'Incarnation, Ursuline, décédée en 1672 à Québec. C'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie, que je m'approche de vous, ô Père éternel. Par ce divin cœur, je vous adore pour tous ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Je vous reconnais pour tous les aveugles volontaires qui par mépris ne vous connaissent pas. Je veux par ce divin cœur satisfaire aux devoirs de tous les mortels. Je fais en esprit le tour du monde pour y chercher toutes les âmes rachetées du sang précieux de mon Sauveur. Je les embrasse pour vous les présenter par lui et avec lui. Je vous demande leur conversion. Mon sur cet adorable cœur, je vous présente au Père tous les ouvriers de l'Évangile, afin que par ses mérites vous les remplissiez de l'Esprit-Saint. Ô Verbe incarné, Jésus mon bien-aimé, vous savez tout ce que je veux dire à votre Père par votre divin cœur. Je vous le dis en le lui disant, parce que vous êtes dans votre Père et que votre Père est en vous. Faites donc que tout cela s'accomplisse et joignez-vous à moi pour fléchir par votre cœur celui de votre Père. Faites selon votre parole que, comme vous êtes une même chose avec lui, toutes les âmes que je vous présente soient aussi une même chose avec lui et avec vous.